Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré.
Bonjour à tous, c'est le deuxième bloc des Héros Anonymes et on a le plaisir d'avoir une invitée en studio que vous allez pouvoir voir sur YouTube et évidemment entendre comme d'habitude sur les différentes plateformes de balado-diffusion. ACKVL, nous sommes présents évidemment sur canalm.vusezvoix.com et sur le câble. Alors, pour ce deuxième bloc, nous accueillons Alanis Da Sousa, qui est la directrice de la Maison de la famille Parentraide. Bonjour, Alanis.
Bonjour, enchantée. Merci pour l'invitation sur l'émission.
Ça me fait plaisir. C'est une mission qu'on s'est donnée aux héros anonymes de faire découvrir les gens qui sont engagés socialement et qui aident d'une certaine manière à maintenir le filet social en place et qui font la différence. Et je crois qu'il y a beaucoup d'enjeux au niveau des familles dont on va discuter.
Oui, effectivement. Surtout avec tous les derniers changements dans la société. COVID, inflation.
Ben justement, parlons-en. Quels sont les grands défis des familles là, en 2024, Alanis?
Donc, en fait, depuis la COVID, on a été vraiment portés à s'isoler énormément. Puis après la COVID, l'anxiété, les troubles de santé mentale ont beaucoup ressorti, le manque de services, que ce soit dans les CLSC, que ce soit au niveau hospitalier, que ce soit même dans les écoles, le manque d'enseignants, même dans les garderies, le manque de place. Donc la détresse, elle a augmenté. Et en plus, on ajoute l'inflation qui vient encore plus rendre nos familles d'une façon plus vulnérable financièrement. Mais en fait, on est tous touchés par ces enjeux. Donc, si on ajoute ça en plus des défis antérieurs, donc avant la COVID, ça augmente la détresse psychologique de nos familles. Donc, nous, on est vraiment là pour les accompagner dans tous les enjeux, sans jugement. Puis, on a aussi beaucoup de familles qui sont considérées comme marginalisées. Lorsque je dis ça, c'est des familles qui peuvent vivre, des parents qui peuvent vivre des handicaps, des situations de santé mentale, une précarité financière issue de l'immigration, racisée. Donc, nous, en fait, on est ouvert à toute personne qui cogne à notre porte.
Et sans vouloir s'étendre sur la COVID, bon, on l'a tous vécu. Il y a eu beaucoup de réflexions sur ce que ça a fait, le confinement, entre autres, dans des familles qui vivaient déjà des difficultés de communication. Donc, comment vous avez été interpellés, justement, pour les aider à mieux vivre ces enjeux?
Ben, en fait, quand les familles ont repris les services, dans un sens, c'était plus difficile pour eux d'être en grand groupe. On a vécu aussi plusieurs situations de détresse psychologique qui pourraient être des idées suicidaires ou ça peut être aussi de la violence conjugale que puisque ces familles-là étaient isolées, ben, en fait, c'était difficile pour eux de sortir de ce milieu.
Puis tout devient exacerbé parce qu'on est toujours ensemble.
C'est ça. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de donner un peu plus de temps en intervention individuelle avec nos intervenantes auprès des familles pour mieux cibler les besoins, mieux cibler les services aussi. On fait extrêmement attention aussi à tous les besoins qui ne sont pas nécessairement dans notre mission. Donc, on fait énormément de partenariats avec d'autres organismes pour offrir le plus possible de facteurs de protection auprès de nos familles. Puis aussi, maintenant, on offre des services d'éducation spécialisés pour les enfants parce qu'on a découvert aussi un retard sur beaucoup d'apprentissage auprès des enfants. Même les enfants 0-5 ans, par exemple, qui étaient beaucoup plus isolés, donc au niveau du langage, au niveau de la compréhension, les habiletés sociales. Donc, nous avons des services d'éducation spécialisés pour les enfants 0-5. Nous avons aussi plus d'ateliers sur la santé mentale, donc comment on peut prendre soin de nous, se ressourcer avec des techniques de méditation, par exemple, ou des moments avec l'intervenante et un groupe de parents.
On va creuser un petit peu plus, là, justement, les différents types d'interventions selon les groupes d'âge des enfants. Mais effectivement, on a entendu beaucoup que les bébés COVID avaient certains retards du fait de ne pas avoir été socialisés plus vite en garderie ou avec d'autres enfants. Jusqu'à quel point c'est vrai?
En fait, même le manque de place en garderie peut apporter cette situation-là. On a aussi beaucoup plus d'enfants à besoins spécifiques. Donc, que ce soit avec des attentes de diagnostic ou de diagnostic du TSA, que ce soit du TDAH, troubles d'attachement, de comportement. Puis on a vu vraiment une augmentation, mais même avant COVID, une augmentation d'enfants avec des défis. Mais là, maintenant, depuis la COVID, je dirais que ça a vraiment augmenté, surtout au niveau du langage. Puis le langage, c'est la base de l'apprentissage. Ouais. Donc, un enfant qui ne peut pas communiquer ses besoins, mais il y a d'autres comportements qui vont ressortir et ça va toucher tout son développement finalement. Donc, il y a des régressions dans les comportements. Puis pour les parents, ça les emmène encore plus dans une situation de détresse. Les services sont difficiles à aller chercher. Les équipes travaillent fort partout, hein, que ce soit dans les CLSC ou que ce soit dans le milieu communautaire, mais la demande aussi est en constante augmentation.
Okay. Mais je pense que vous dites quelque chose qui me semble très vrai au niveau du vocabulaire et j'imagine que ça se répercute aussi plus vieux dans notre vie, en fait, quand on est adulte, quand on a plus de vocabulaire pour être capable de nommer exactement les nuances dans ce qu'on vit. C'est sans doute plus facile d'arriver à bien communiquer que si on est pris avec un volcan d'émotions, mais on n'arrive pas à nommer les choses.
Mm-hmm. Même pour les parents, en fait, on travaille énormément sur l'attachement. En fait, notre organisme utilise l'approche personnalisée. C'est une approche qui est vraiment axée sur mettre en lumière les bons coups des parents, leur habileté parentale, parce que le parent est expert de son enfant, puis souvent, on l'oublie. Hein. On est porté à conseiller toujours le parent, mais il connaît son enfant, il se connaît aussi. Puis nous, cette approche, en fait, c'est de respecter le rythme du parent et de l'enfant, respecter ses besoins, respecter aussi ses émotions, les valider, puis essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans notre corps pour être capable de mieux communiquer aussi, mais mieux gérer les prochaines situations. Donc, on a des ateliers qui sont spécialisés avec cette approche. Puis l'approche, en fait, provient d'un organisme qui s'appelle PARSEM, qui est vraiment spécialisé dans l'attachement, puis le lien parent-enfant, ce qui touche notre mission, finalement.
Comment on le définirait, l'attachement, ou même le trouble d'attachement?
Oui, bien, en fait, l'attachement se fait dès la grossesse. Donc, l'enfant a déjà des sens éveillés pendant la grossesse. Puis par la suite aussi, le contact. Souvent, on pense à la maman, mais la figure d'attachement, ça peut être le grand-parent, ça peut être le père, la mère. Ça peut être vraiment changeant aussi selon l'évolution de l'enfant. Puis l'attachement, en fait, c'est que lorsqu'on a un fort lien d'attachement avec notre enfant, c'est qu'après, notre enfant est sécurisé. Puis il est plus porté à aller chercher par lui-même, à explorer par lui-même. Donc, il devient de plus en plus autonome. Donc, on est vraiment dans une société où est-ce qu'on voit l'autonomie comme quelque chose de très important à appliquer auprès de nos enfants. Mais en fait, ça crée certains retards parce que lorsqu'on veut, on pousse énormément l'autonomie, mais l'enfant, lui, sent qu'il va devoir être, je dirais, même au-dessus de certains comportements du parent. Donc, par exemple, on parle d'alpha bienveillance qui vient de Richard Robillard, un psychoéducateur. Donc, quand le parent n'est pas sécurisant et qui oblige l'autonomie chez son enfant, bien, son enfant commence à se dire « j'ai plus besoin de mon parent parce que je deviens autonome ». Tandis que quand on montre qu'on est l'alpha, qu'on est bienveillant, qu'on te met un cadre, qu'on est bienveillant envers toi puis qu'on respecte ton besoin, mais l'enfant sent qu'il peut toujours revenir vers son parent lorsqu'il a besoin. Qu'aujourd'hui, par exemple, l'enfant, il n'a pas envie d'attacher son manteau. Il a 5 ans. Oui. Il est capable d'attacher son manteau. Mais s'il vous le demande, c'est parce que souvent, il y a un besoin derrière ça. Il a besoin de proximité. Donc, en répondant à son besoin de proximité, ça le sécurise. Puis après, demain, il va le fermer, son manteau. C'est de répondre aux besoins immédiats de l'enfant. Il faut faire attention avec le besoin immédiat. On ne va pas non plus le nourrir de chips à tous les jours. C'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est vraiment... Quand on parle de bienveillance, c'est de bienveiller envers quelqu'un. Donc aussi, on va mettre des limites claires envers l'enfant pour que lui aussi comprenne les règles sociales, qu'il comprenne aussi certains comportements que c'est pour son bien-être aussi.
Parce que l'enfant ne sera pas nécessairement en mesure de dire « j'ai un besoin de proximité, j'ai envie de te coller ». Donc, le parent pourrait dire « tu le sais, attacher ton manteau, pourquoi tu ne l'attaches pas ?» Mais il n'a pas été capable nécessairement de nommer le besoin qu'il avait à ce moment-là.
Puis l'enfant va finir par lui-même, par trouver son autonomie. J'ai rarement vu des adolescents de 18 ans pas capables d'attacher ses souliers.
En fait, pas attacher leurs souliers, leurs manteaux, ils les attachent pas de toute façon.
Oui, c'est ça, selon la température.
Non, c'est ça. Moi, j'ai été fascinée de voir comment mes enfants semblaient avoir un calorifère intérieur, puis ça, tout est ouvert, c'est en souliers de course, justement, pas attachés. La neige ne les affecte pas.
Non, c'est ça. Le besoin de liberté, d'autonomie par lui-même. Oui.
C'est un besoin qui s'exprime de cette manière-là, j'imagine, pour les adolescents.
Oui, effectivement. On offre aussi des services pour les adolescents. Donc, en fait, on accompagne les familles d'enfants de 0 à 17 ans. Donc, certains comportements, surtout avec les médias sociaux, viennent changer chez les enfants. On voit des comportements qui ressemblent un peu adolescents, comme on dit, chez les enfants de 10 ans, par exemple.
Comme quoi, par exemple,
l'autonomie, de vouloir toujours s'opposer aux parents selon les règlements. Mais c'est normal, c'est quelque chose de très sain chez l'enfant. Mais il va y avoir certains comportements, par exemple, l'enfant qui veut aller tout seul chez son ami, il veut faire sa routine, il veut choisir comment il veut s'habiller, qui n'est pas nécessairement approprié pour l'école, par exemple. Donc, c'est des comportements qui arrivent de plus en plus tôt chez l'enfant. Puis l'utilisation aussi de médias sociaux, qu'on peut pas toujours, c'est difficile de toujours tout contrôler ce que notre enfant voit.
Ouais.
Donc, ça va vite, l'information arrive vite aussi.
Il est exposé peut-être à...
Oui.
Bon, c'est sûr qu'on peut faire des contrôles parentaux et autres, mais c'est la discussion qui...
Des fois, on n'est même pas conscient en tant que parent de toutes les plateformes existantes. Puis ils ont leur propre langage aussi qu'on ne peut pas nécessairement toujours comprendre. Mm-hmm. Donc, chaque génération a son langage de toute façon. Mm-hmm. Mais c'est ça, on a vraiment des services pour toutes les tranches d'âge parce que chaque tranche d'âge a son développement aussi.
Oui. Comment on fait, justement, si on est parent d'un adolescent pour, j'allais dire, traîner son enfant parce que c'est ça, de dire on va aller à un atelier, j'imagine que ça ne lui tente pas vraiment d'y aller.
En fait, c'est ça, on va motiver souvent avec de la motivation alimentaire, hein, de la pizza, des collations. Ouais. Souvent, on crée aussi un cercle d'amis parce qu'on a un camp de jour l'été.
D'accord.
Donc, les enfants ont déjà des liens d'amitié très tôt, puis ils aiment se retrouver après dans d'autres événements, dans d'autres ateliers. Puis, on est aussi en partenariat avec la Maison des jeunes La Porte ouverte, qui est comme nous, qui sont nos voisins, en fait. Puis, juste par exemple, hier, on a offert l'atelier L'Odyssée. Donc, l'Odyssée, c'est vraiment de comprendre tout le développement de l'adolescent avant de commencer le secondaire. Donc, tous les comportements qui vont ressortir avant et pendant le secondaire. Expliquer aussi la routine du scolaire, puis pourquoi l'enfant, l'adolescent, se sent si anxieux par ce changement. Donc, aider à la transition. Puis en plus, on présente l'équipe de la Maison des jeunes parce que parfois, on a certains préjugés selon les organismes. Mm. Puis c'est vraiment rassurant de pouvoir rencontrer l'équipe de la Maison des jeunes. Puis les parents peuvent poser plein de questions. Puis après, on propose le même atelier pour les adolescents. Donc, ça les sécurise, ça crée déjà des liens avec un autre organisme parce qu'à la Maison des jeunes, c'est les mêmes types de diplômes d'intervenants que nous avons.
Est-ce que vous êtes disponible pour chatter avec les jeunes?
Ça va être plus pour la Maison des jeunes.
D'accord.
Nous, on est vraiment plus avec le parent. Mm-hmm. On est disponible aussi avec l'adolescent. Ça nous arrive de faire de la médiation aussi.
Oui.
Parents-enfants, parents-adolescents. Donc, puis on a une intervenante en délinquance, en fait, dans notre équipe, qui est vraiment axée sur les besoins des adolescents.
À ce moment-là, est-ce qu'on est plus en prévention ou plus...
On fait les deux. C'est sûr qu'on préfère la prévention. Donc, dès que vous voyez des comportements chez votre enfant qui vous inquiètent...
Suspicieux.
C'est bien de venir déjà poser des questions puis de mettre des outils en place. C'est plus facile. Par contre, la crise, ça va arriver... Ça arrive à 2 ans, ça va arriver à 10 ans, comme ça va arriver à 15 ans. C'est normal. Donc, on est là aussi en situation de crise.
Donc, comme parent qui peut se demander, est-ce que mon enfant consomme? Et puis, ça peut être simplement. Je dis simplement, mais ça reste assez affectant pour la santé, les vapoteuses.
Oui.
Moi, j'ai été face à ça en ouvrant le sac de mon fils par hasard parce que je cherchais quelque chose. Et là, ça a été... on a pu ouvrir la discussion, mais il aurait pu très mal réagir au fait que j'avais fouillé alors que je cherchais quelque chose. Mais il aurait pu très mal réagir. Heureusement, il y a un bon tempérament, mais j'étais pas du tout au courant qu'il vapotait.
C'est ça, c'est des sujets qui sont vraiment fragiles. Puis nous aussi, en tant que parents, des fois, bien, souvent, ce qu'on nomme, c'est vous, quand vous étiez adolescent. Essayez de vous rappeler un peu comment vous l'avez vécu. Pourquoi vous êtes allé vers ce type de consommation? Souvent, c'est pour de l'exploration, pour l'approbation des pairs. Donc, ça va être d'aller sensibiliser au niveau de la consommation. Puis nous, on est vraiment dans la réduction des méfaits. Mm. En fait, quand on fait des interventions auprès des adolescents, leur dire, ben non, arrête de consommer, ça ne va pas fonctionner. Mm-hmm. Donc, on va aller conscientiser. Qu'est-ce que tu consommes? Où est-ce que tu veux le chercher? Pourquoi tu consommes? C'est quoi la quantité que tu consommes aussi? Avec qui tu le consommes? Où tu le consommes? Donc, pour que ça soit le plus sécuritaire possible.
Oui.
Puis, on fait le même type d'intervention dans les maisons des jeunes aussi. Donc, ça permet d'entendre ce discours-là par d'autres personnes que notre parent, parce que souvent, on va être porté à « tu me comprends pas », mm-hmm. on s'oppose à notre parent. Donc, quand c'est une autre personne qui le dit, c'est plus facile pour l'adolescent de l'ancrer.
Oui. Bien, j'invite nos auditeurs, on a plusieurs autres épisodes des héros anonymes où on a discuté justement avec des spécialistes au niveau de la consommation et allant même jusqu'à certaines roulottes d'auto-injection qui, eux, étaient justement dans cette approche de réduction des méfaits. Donc, on essaie de minimiser le plus possible, mais je suis contente de savoir qu'il y a des organismes comme le vôtre qui agissent vraiment au niveau de la prévention.
Puis on soutient les parents. Aussi, on est en partenariat, je disais, avec des organismes, mais aussi avec des programmes du CLSC, comme le Virage, qui est le Centre de réadaptation en dépendance. On offre CAP sur la famille, qui est un atelier avec les intervenants du centre. Puis, c'est sur le parent qui, lui, a une dépendance et son enfant. Ça peut être un membre de la famille qui vit avec quelqu'un qui a une dépendance et l'enfant. Donc, notre but, c'est d'aller sécuriser l'enfant aussi dans ce qu'il vit, mais c'est aussi de faire comprendre un peu l'impact de la dépendance dans le milieu familial auprès du parent consommateur.
Est-ce qu'on peut aussi avoir des conseils sur comment ouvrir la discussion avec notre enfant?
Oui, effectivement. En fait, notre intervenante spécialisée, elle offre des ateliers à ce sujet, mais elle fait aussi de l'intervention individuelle selon certaines situations. En ce moment, comme je parlais des médias sociaux, on a énormément d'informations qui viennent. On parle de consommation, mais on va parler aussi de la recherche d'identité. L'adolescent, de plus en plus, même jeune, à 10 ans, on commence déjà à beaucoup se questionner sur notre personne. Mm-hmm. Puis quand on parle de situations, par exemple, de trans ou de transgenre, de transsexuel, c'est souvent très jeune, même avant ça, qu'on conçoit qu'on n'est pas nécessairement confortable dans notre corps. Donc, on a aussi ce service-là auprès des familles pour les sensibiliser sur l'identité, sur l'orientation. Donc, mieux comprendre le développement de notre enfant, en fait, puis sa recherche identitaire.
Puis est-ce que c'est parce que c'est des questionnements qui sont davantage propres à notre époque ou c'est davantage que là, on a une piste? Parce que de tout temps, moi, je me rappelle qu'en étant adolescent, on est une machine à se poser des questions, à mal-être en permanence. Je ne retournerais pas nécessairement à cette époque-là. Je me posais beaucoup de questions. Mais quand, au moins, à notre époque, on a des pistes de réflexion.
Oui, mais en fait, je dirais que maintenant, il y a beaucoup d'informations, donc on se pose encore plus de questions quand on est dans la préadolescence. Moi aussi, dans mon temps, c'était comme gay, lesbienne, bisexuelle, puis on avait un peu de trans, mais c'était pas quelque chose, un sujet très connu. Mais
je pense c'est l'identité, parce que là, on parlait d'orientation, mais de parler de notre identité. On se disait, ben, t'es homme, t'es femme, tu peux avoir une orientation, mais c'est des questions. Donc, on avait un mal-être. Mais on ne savait pas la dysphorie de genre, on ne parlait pas de ça.
C'est ça, puis tout se mélange aussi dans toutes ces informations. Donc nous, en fait, notre rôle, et comme la Maison des jeunes, c'est d'aller démanteler un peu toutes ces informations, puis d'aller explorer avec le jeune aussi, parce que c'est énormément d'informations qu'on reçoit, on se recherche, c'est difficile d'avoir une réponse, puis on essaie d'appartenir aussi, de se faire comprendre, de se faire respecter dans la personne qu'on est, d'avoir un sentiment d'appartenance aussi à une communauté. Donc, c'est sûr que c'est un long processus, autant pour le parent aussi que lui ne comprend pas toute la situation, que pour lui, son enfant, on va aller vers l'identité, que son enfant, ça a toujours été un garçon, puis finalement, à 14 ans, l'enfant arrive, je suis une fille, en fait, ça fait longtemps que ça roule dans la tête de ce garçon dans le moment qu'il était un garçon. Donc, c'est ça. Beaucoup d'informations, mais je pense qu'il y a toujours eu cette recherche d'identité puis ce mal-être-là, d'essayer de trouver des réponses. Je pense que même c'est plus facile maintenant de trouver certaines réponses avec Internet.
Alanis, on fait une courte pause et on revient tout de suite en ondes et aussi sur YouTube.
Parfait.
Retour au Héros anonymes avec Alanis de Sassoussa, de la maison de la famille Parentraide. Eh bien, d'abord, Alanis, peut-être nous dire, il y a combien de maisons de la famille à travers le Québec?
Oh, il y en a une centaine. En fait, on appelle ça des OCF, des organismes communautaires famille. Si vous voulez en retrouver, vous pouvez le voir sur le site d'Internet FQOCF, donc la Fédération communautaire des organismes.
Une centaine?
Fédération québécoise des organismes.
Mais spécifiquement des maisons de la famille ou c'est vraiment des organismes familiaux?
En fait, des OCF ont une mission assez semblable. Donc, notre but, c'est vraiment d'accompagner les familles. Puis, dans chaque secteur de votre ville, par exemple, vous allez avoir une maison ou un OCF pour vous. En fait, vous pouvez utiliser le site Internet 211 ou appeler au 211. Vous écrivez votre besoin, par exemple, puis il y a un organisme qui va vous être proposé. Souvent, les organismes familles sont comme un premier organisme qui vous permet d'être référé à d'autres organismes par la suite.
Ouais.
Quand on est parent, c'est sûr qu'on est plus porté à aller vers la maison de la famille.
Est-ce que ça se peut que le 211 ne soit pas assez connu?
Oui, effectivement.
Parce qu'on connaît le 911 pour les crises d'urgence. Je pense qu'il y a une nouvelle ligne aussi pour la santé mentale.
Santé mentale.
211, c'est vraiment, on prend le téléphone, on compose 211 tout simplement.
C'est plus facile sur le site Internet parce que vous pouvez vraiment aller cibler, filtrer vos besoins. Puis, c'est vraiment dans le Grand Montréal, par contre. Là, c'est Rive-Sud et Montréal. Donc là, vous avez vraiment accès à tous des services qui peuvent être proches de vous dans votre territoire.
Et on parle beaucoup du manque de services, famille, santé mentale et autres. Est-ce que c'est possible que les gens sont portés à se tourner d'abord vers leur CLSC?
Oui, en fait, c'est, Même quand on va à l'école, par exemple, puis on présente nos difficultés en tant que parents pendant une rencontre de parents avec notre enfant, mais la première chose qu'on propose, c'est une référence au CLSC. Mm. Même nous, on va faire quand même des références au CLSC, en fait, tout le temps. Puis nous, en fait, on est comme un soutien. On a un filet sécuritaire supplémentaire auprès des familles. Donc, souvent, on travaille avec les travailleurs sociaux du CLSC. On va travailler avec la DPJ aussi, par exemple, ou les écoles. Donc, on est un ajout. Mais c'est vrai qu'effectivement, les gens vont aller vers les CLSC avant. Souvent, on a ce préjugé-là qu'on ne doit vraiment pas bien aller pour aller fréquenter un organisme. Puis en fait, toute personne peut cogner à une porte d'un organisme. Et peu importe la situation familiale que vous êtes ou peu importe la situation financière que vous êtes.
Mmh. Et il y a des services, je dirais, qui sont peut-être une porte d'entrée aussi d'une certaine manière. Bon, on parle de halte-garderie, camp de jour. C'est des haltes-garderies camp de jour typiques comme on en voit partout?
Non, pas nécessairement. Ah. En fait, nous, on offre un service de haltes-garderies. C'est un répit pour le parent et l'enfant. Mm-hmm. Donc, c'est une période de 3 heures ou une période de 8 heures, donc pour toute la journée. Puis, ça a un coût de 4 $ une demi-journée, 8 $ une journée pleine. Par contre, on a 2 éducatrices, puis une éducatrice spécialisée. On fait des activités vraiment au niveau de la stimulation du développement de l'enfant. Tous nos services, que ce soit nos ateliers ou peu importe, portent sur le développement cognitif, affectif, social et motrice de l'enfant, même langagier. Donc, notre halte-garderie va être vraiment portée à aller cibler les besoins chez les enfants, puis on peut faire des références en CLSC. Puis parfois, on a aussi le CLSC qui vient dans nos bureaux pour aller rencontrer des familles. Donc, c'est plus informel, des fois moins confrontant aussi pour les familles.
Que d'être dans la machine institutionnelle, puis de vraiment penser qu'on a une grosse problématique.
C'est ça. Des fois, bien, c'est plus facile de faire de la prévention de cette façon-là aussi.
Mm-hmm.
Donc, puis pour ce qui est du camp de jour, on a un camp de jour avec, c'est nos intervenantes psychosociales qui animent le camp de jour avec une animatrice. Encore là, on est énormément dans le respect du besoin de l'enfant. Donc, c'est des routines d'activités artistiques, scientifiques, culinaires et sociales.
Mm-hmm.
Puis, on travaille les habiletés sociales, la gestion des émotions. Puis, on a une animatrice avec nous. C'est du lundi au jeudi. Par contre, le vendredi, on est obligé d'aller dans une sortie parent-enfant parce qu'on veut créer le lien parent-enfant.
Oui.
Puis c'est à moindre coût. Puis, on a un camp de jour de préparation à la maternelle aussi avec des éducatrices spécialisées. Oui, ça leur permet, en fait, ça permet aux enfants de se préparer à l'école, mais aussi aux parents. Donc souvent, c'est beaucoup de questionnements. Puis, c'est une grosse transition aussi, la garderie à la maternelle.
On voit à peu près dans tous les films là, cette scène classique là, du parent que l'enfant embarque dans l'autobus scolaire, le parent essuie une petite larme.
Oui, pour la première fois. Puis souvent, ben, les enfants aussi, comme je parlais, on disait que les enfants ont de plus en plus de retard ou des difficultés. Donc, pendant cette semaine de camp de jour, on va aller vraiment faire un portrait de l'enfant qu'on va pouvoir remettre à l'école. Donc, ça permet déjà aux enseignants de connaître certaines stratégies qui sont utiles pour le développement de l'enfant, pour faciliter l'apprentissage.
C'est vraiment bien, tous ces liens que vous faites. Bon, on parlait 05, 5, 12, 12, 17. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Bon, j'imagine que ça s'accorde à l'évolution de l'enfant, mais je voyais qu'il y avait vraiment certains... Bon, on parle de préparation à la maternelle, mais par exemple, jalousie, rivalité entre frères et sœurs, est-ce qu'il y a un âge où c'est plus propice à ça?
Ben, en fait, c'est sûr que, comme je disais, dans chaque tranche d'âge, on va aller chercher nous-mêmes, en tant qu'enfant, l'autonomie. Donc oui, la rivalité frère-sœur, on va le voir énormément dans la fratrie du 8-12 ans.
Mm-hmm.
Puis après, ben là, quand on embarque dans ce qui est dans 12-17 ans, c'est que c'est d'autres comportements qui vont ressortir qui ne sont pas typiques d'un enfant d'âge scolaire du primaire.
Mm-hmm.
Donc c'est pour ça que c'est plus spécialisé selon les tranches d'âge.
D'accord. Et... je sais que vous avez plein de projets en tête également, peut-être avec d'autres groupes d'âge. Je pense que vous avez un intérêt peut-être pour l'implication davantage des aînés.
Oui, en fait, ce qu'on voyait, on trouvait ça important en fait d'avoir toutes les générations, de l'intergénérationnel. C'est fréquent aussi que des grands-parents participent à nos activités avec leurs enfants, mais c'est aussi d'autres aînés bénévolement qui pourraient venir, par exemple, faire une lecture pendant la halte-garderie. Donc, c'est des projets qu'on aimerait vraiment mettre en place, mais aussi on est en plan d'action pour la valorisation de la paternité. Donc, pour les pères, on offre un atelier de compagnons à manœuvre qui est un atelier simplement pour les pères.
De compagnons à manœuvre.
Oui, c'est ça. Un beau jeu de mots. En fait, c'est les étapes dans la construction, dans le domaine de
d'accord.
la construction.
Ouais, c'est pour ça que j'étais moins sûre de comprendre.
C'est ça. Puis les enfants construisent en fait une boîte à outils. Puis ils ajoutent un outil dans la boîte à outils à chaque période, à chaque atelier, qui va être bénéfique pour le parent et l'enfant, pour le père et l'enfant. Puis il y a un réseau qui se construit entre les pères. Puis faire comprendre un peu plus les comportements de leur enfant et leur propre rôle parental.
Est-ce que vous avez des références aussi, je pense spontanément au cours prénataux, bah, qu'on voit peut-être en CLSC. Est-ce que c'est encore les CLSC d'ailleurs?
Oui, les CLSC, on peut aller au privé, mais il y a beaucoup d'organismes maintenant, qui l'offrent. Nous, par contre, on a MAM, qui est dans le même édifice que nous, qui est un autre organisme qui est vraiment spécialisé en périnatalité. Donc, l'organisme est vraiment en périnatalité 0-1 an, puis nous, on continue nos services par après. Donc, il y a vraiment un suivi. Puis après, il y a la maison des jeunes juste à côté, donc jusqu'à la fin de l'adolescence.
Et vous disiez un peu plus tôt que vous faites attention de maintenir une bonne, pas distance, mais de vraiment savoir à quel moment c'est votre rôle comme maison de la famille, puis ailleurs, parce que est-ce que ça se peut qu'il y a des organismes, des fois, qui dépassent un petit peu leur rôle? Ou...
En fait, c'est sûr que on va dépasser des fois aussi notre mission parce qu'on veut vraiment aider.
On a un grand cœur. C'est ça.
L'existence d'un organisme, c'est de vraiment aider la communauté. Donc, on dépasse un peu. Mais oui, on essaye de ne pas dédoubler nos services puis vraiment d'aller valoriser les missions de chaque organisme parce qu'en fait, on est toute une communauté ensemble.
Oui. Puis j'imagine aussi, on le sait, dans le milieu communautaire, il y a beaucoup la recherche de subventions. Donc, on se retrouve dans une certaine compétition à faire des demandes de subventions aux mêmes endroits. Donc, je pense que c'est important de se parler pour vraiment définir des cibles, des zones d'intervention particulières.
Souvent, on fait des projets de concertation pour éviter cette compétition entre nous. Donc, on crée des projets entre plusieurs organismes. Ça nous permet aussi d'avoir un montant plus grand pour nos projets. Puis, on offre des services. Exemple, on offre des ateliers alimentaires avec nos familles, avec la Bouffe du Carrefour, qui est un autre organisme du quartier. Donc, où j'offre de la musicothérapie et de la zoothérapie avec l'Envol, qui est un autre organisme pour les femmes, les jeunes mamans.
La zoothérapie aussi?
Oui.
Ah, intéressant, intéressant. Mm-hmm. Et justement, le financement, il vient de où?
Oui, nos financements principaux, pardon, c'est le ministère de la Famille, donc du gouvernement.
Maison de la Famille, ministère de la Famille.
C'est ça. Puis le Centre Aide aussi qui nous aide énormément. Sinon, c'est souvent par projet des bailleurs de fonds qui financent plusieurs projets que nous avons.
Excellent. Et comment on peut vous aider? Dons, bénévolat?
Oui. En fait, les dons monétaires, ça nous aide énormément pour offrir des services plus spécialisés selon les besoins actuels. Donc, ça peut être simplement de nous écrire à info@commerciallaparentraide.ca.
Excellent. Ben, on passe le message. Écoutez, le site Internet, en terminant?
Oui, c'est le www.laparentraide.ca. Donc, tout coller ensemble.
Okay. Merci beaucoup, Alanis, d'avoir été parmi nous. Et c'est ainsi que se conclut cette émission des Héros anonymes. Nous étions ici sur YouTube dans le deuxième bloc, mais le bloc complet, on a eu l'occasion de parler au Centre des femmes entre elles. Merci à notre équipe, Mathieu Tessier en régie, Catherine Bourderon à la recherche et également Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et nos gens au réseau sociaux qui feront en sorte de faire du pouce à cette vidéo YouTube. Je m'appelle Chantal Doré. C'est un plaisir d'être avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.